François Ier dit lui-même de la Loire qu'elle est la première voie navigable de son royaume. Le plus long fleuve de France est à la Renaissance un espace où transitent des produits venant de presque tout le monde connu d'alors. Le transport s'effectue en remontant et en descendant le fleuve et ses affluents. Les contrats de transport sont appelés « lettres de voiture ». Pour protéger les marchandises, le fond des bateaux est couvert de paille, de fagots ou de nattes. Les pancartes de péage conservées donnent des informations sur les produits, mesures, emballages, valeurs et parfois origines. On trouve ainsi des barils de hareng, des bennes de charbon, des quintaux de fromage et des aulnes de toile. Au XVIe siècle, la présence des rois en Val-de-Loire et les découvertes géographiques lointaines dynamisent le commerce. Les produits à destination ou en provenance de Paris passent par Orléans. Ceux du Poitou, venus par la Vienne, transitent à Saumur. Angers accueille le trafic des provinces du Maine, de la Bretagne et de l'Anjou. Les marchandises de Provence, d'Italie et du Levant arrivent de Lyon par Roanne. Nantes accueille les produits d'Espagne et d'Outre-mer. Quand Louis XI installe l'industrie de la soie à Tours, l'ambition est d'y créer une étape importante du commerce entre la Méditerranée et l'Atlantique. Les villes pourvues de ponts accueillent des marchés importants. La foire Le Roy à Tours se tient deux fois l'an pendant 15 jours. Y sont présents des poissonniers, des bouchers. On y trouve aussi des produits exotiques comme le gingembre, la cannelle ou le safran. À Amboise, on tient quatre foires annuelles sur la place du Grand Marché. Nantes, Orléans et Roanne sont des plaques tournantes. Les cargaisons les plus fréquentes sont le sel, le blé et le vin, qui tiennent une place importante dans l'alimentation. Au moment des grandes famines, à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle, les Blésois obligent les bateaux à leur vendre leurs produits. Les vins circulent en tous sens. Ceux de Touraine, du Chinonnais ou du Saumurois sont destinés à la consommation courante. Ceux d'Anjou et d'Orléanais sont des produits de luxe recherchés et exportés, notamment vers l'Italie. Le port de la Bouillie, à Blois, sert pour expédier le vin local vers Nantes ou Orléans. Le sel est indispensable pour la conservation des aliments. Transporté en sac et mesuré en muis, il est stocké dans les greniers à sel qui accueillent aussi l'administration qui gère sa taxe, la gabelle. Les fraudes sont fréquentes. On transporte aussi le fer du Languedoc et du Roussillon, les verres à boire et les faïences de Nevers, les savons de Marseille, le charbon du Forez, les eaux de vie d'Orléanais et d'Anjou, ou encore les fruits secs de Touraine. Les comptes de bouche royaux permettent de connaître l'alimentation de la cour. L'Église prescrit alors environ 150 jours maigres par an. Donc, on mange du poisson. Alose, lamproie, saumon, carpe, mulet, esturgeon, anguille, barbeau, brochet, goujon de Loire figurent à côté des harengs et morues venant de la mer. En plus des marchandises traditionnelles ou locales, des marchands d'origine française ou étrangère installés dans les villes font venir des produits de luxe. À Nantes, se côtoient portugais, espagnols, italiens, hollandais. Les bananes, le café et le thé remontent la Loire. Les oranges, les laines ou la soude arrivent d'Espagne et du Portugal. Les métaux d'Angleterre et d'Irlande, les toiles de Flandre, le cuir de Cordoue. Certains produits nobles comme le papier, les livres, le sucre ou les ardoises pour la couverture des châteaux sont affranchis de droits. Ainsi, en 1521, l'arrêt du Parlement de Paris fixe qu'un bateau chargé d'ardoises sera exempté de taxes. Celui qui mène le bateau criera à haute voix vers le péage « Je mets une ardoise !» et jettera une ardoise dans l'eau. Le dynamisme du commerce sur la Loire à la Renaissance contribue au développement de l'ensemble du royaume. Il montre aussi à quel point le moment de la Renaissance est celui d'une nouvelle ouverture au monde.